Première chose, je pense que c'est vraiment le point de départ avant de voir l'action comme telle. C'était quoi l'attitude de Josué envers Dieu? Josué, il s'avance, il voit Jéricho au loin, puis il y a un homme qui arrive au-devant de lui. Est-ce que tu es pour nous ou tu es contre nous? Et là, la personne se répond, non, je ne suis pas contre vous, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et à la fin, on comprend que, verset 15, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Est-ce que c'était un simple ange qui était là? C'était pas un simple ange. Il l'a adoré, dans ta version, c'était prosterné. Josué l'a adoré. Et les références que l'on trouve dans les Écritures, quand on a cette citation-là, ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint, c'est parce que Dieu y est là. Et c'est quoi l'attitude de Josué envers Dieu? Il se prosterne. Il adore. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Quelle est son attitude de cœur? Ouais. Je suis là, je suis prêt, j'écoute. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Dis-moi ce que tu veux, puis je suis là. Il l'adore. C'est l'attitude de Josué devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait Josué? Il savait là, qu'il allait attaquer Jéricho. Il savait que Jéricho était là, puis qu'il devait la prendre en bataille, et qu'il devrait la prendre. Et puis, quelle est la première chose qu'il fait? Dieu se présente à lui, puis il dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est l'attitude d'un homme de Dieu qui voulait se soumettre justement à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il adore Dieu. Josué, avant de passer à la guerre, il n'a pas fait de la méditation. Il n'a pas fait de la stratégie militaire à savoir qu'est-ce que je vais faire. Peut-être qu'il en a fait, mais ce n'est pas ce qui nous est révélé ici. Il n'a pas fait son tai chi pour faire évacuer son stress. Il a rencontré Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis il l'a adoré. Il a pris un temps avec Dieu. Dieu s'était présenté à lui. Et c'est le premier point de départ, je pense, que l'on doit comprendre vers cette grande victoire-là qui s'en vient. L'attitude qu'il y a dans le cœur de Josué. Cette attitude-là, je pense que c'est l'attitude qui allait le mener à la victoire. OK, on continue dans Josué 6. On continue les cinq prochains versets. Un autre volontaire, Josué 6, 1 à 5. Richard. OK, merci Richard. À partir de quel moment la ville était livrée entre les mains des Hébreux? Il restait combien de jours avant que la ville soit livrée entre ses mains? 7 jours? Un peu moins. Encore moins. Hein? Voici, je livre la ville entre tes mains. Josué, la victoire est là. Je te la donne. C'est une question piège, je savais que vous alliez répondre ça. Là. Mais ce que Dieu dit à Josué, vous aviez raison là, dans un sens avec l'histoire qui s'en venait. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il y avait un élément de foi. Ou ce que la ville, dans un sens physique, elle n'était pas prise encore par le peuple. Mais Dieu lui dit, je te la livre, je te la donne. Dieu, il nous dit ces mêmes promesses-là aussi. Il y a des promesses où ce que Dieu il nous dit, je te la donne. C'est là, mais c'est par la foi qu'on obtient ces choses-là. Il manquait, dans les étapes qui s'en venaient pour Josué, ces pas de foi-là qui allaient l'amener à l'obéissance. Mais Dieu, il dit, « Voici, je livre la ville entre tes mains. » Verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Elle est à toi. » C'est qui la donne? C'est Dieu. C'est pas Josué par sa grande stratégie militaire. Dieu lui a donné. Elle est là. Il n'a qu'à prendre. Il n'a qu'à prendre. Ça paraît facile de dire comme ça. J'imagine que si on était devant Jéricho, ce serait peut-être plus difficile, mais Dieu la lui donnait. C'est quoi la stratégie militaire de Dieu? Qu'est-ce qu'il devait faire dans un sens physique, là? C'est quoi la stratégie militaire que Dieu donne à Josué? Faire le tour de la ville. OK. Alors, il donne un peu l'ordre des choses avec les sacrificateurs et puis l'arche qui va être là, les trompettes retentissantes. Et puis, ils vont faire le tour de la ville une fois pendant 6 jours. Puis, le septième jour, il fait le tour 7 fois. Et puis là, après la septième fois, c'est là que les murailles devaient tomber. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie militaire de Dieu? C'est étourdissant. Ouais. Peut-être qu'ils se sont dit ça. En tout cas, initialement, on voit qu'ils ont peur. Ils ont la crainte des Hébreux. Ils ont entendu parler de ce qui s'était déjà passé, un peu à l'exemple de Rahab. Ils se disaient, on vous connaît, là. Ils avaient peur, mais qu'est-ce qui s'est passé au cinquième jour quand ils se disaient, voyons, ils ne savent pas quoi faire. Ils font le tour de la muraille et ils cherchent la faille. Il n'y en a pas. Ils se demandaient peut-être qu'est-ce qui se passait. Ouais. Oui, Danny. Ouais. Il devait y avoir de la crainte. Ouais, certainement. Certainement. Et probablement qu'eux, ils avaient ce même sentiment-là, à savoir que la ville était livrée entre leurs mains. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Peut-être qu'ils se sont posé la question, ils font, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et puis, la stratégie militaire de Dieu, pour notre raisonnement humain, elle ne fait pas de sens. Puis c'est comme ça que Dieu se glorifie. Avec des choses qui sont viles, Dieu se glorifie, manifeste sa puissance. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Josué, juge, c'est plein d'exemples où ce que Dieu utilise les choses viles de ce monde pour manifester sa puissance. À travers les juges, il y a beaucoup d'exemples. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé une stratégie aussi bizarre, disons-le comme ça? Ben, il a voulu manifester sa puissance. Oui, Frédéric? Comment? Ouais. Pour sonder leur foi, comme tantôt Simon disait, Dieu aurait pu faire exploser les murailles sous l'instant, là, dans un instant, mais il a demandé au peuple de faire le tour de la ville pendant 7 jours, et puis le septième jour de le faire 7 fois. Il voulait utiliser son peuple. Il voulait leur donner l'occasion de marcher par la foi. Dans un sens littéral, ils ont marché autour de la ville. Ils disent, on fait confiance à Dieu, là, il nous a dit de faire ça, on le fait. Et puis on va regarder qu'est-ce qui va se passer, mais on a confiance en Dieu. Je voulais vous citer 1 Corinthiens 1. Je vous donne les textes, puis vous les lirez pour vous-même. 1 Corinthiens 1, 1, 27 à 31, nous dit justement que c'est par les choses. Notre sagesse humaine est une folie aux yeux de Dieu. Et ce qui est pour Dieu est une sagesse, pour nous, dans notre compréhension humaine, c'est une folie. Mais Dieu se glorifie à travers les choses vaines de ce monde. Et est-ce qu'il y a un volontaire rapidement qui veut lire 2 Corinthiens 10, 3 à 5? Pour continuer le texte, quelqu'un veut nous lire ça rapidement? OK, Mélissa. Est-ce que Josué s'est obstiné avec Dieu? Dans ce que l'on voit ici, est-ce qu'il dit, ben voyons Dieu. Pas faire ça comme ça. Non, il s'est pas obstiné. OK, vas-y. OK. Alors, c'est par cette fois-là que justement on renverse des murailles. Qu'il y a des choses dans nos vies même qui peuvent tomber à cause que l'on marche pour Dieu. Et comment était la foi de Josué? Ben, il a obéi. En quoi est-ce qu'il a cru? Il a pris les paroles de Dieu, ce que Dieu lui avait donné, puis il a dit, je vais le faire. Et c'est ce qu'on voit dans la suite. Un volontaire qui veut me lire, on va terminer, il reste 2 textes rapidement pour terminer l'histoire. Un volontaire qui veut lire Josué 6, 13 à 19. OK, Pauline. Oui. Ça va. Les miennes aussi font ça des fois. OK. Ça va. Merci beaucoup, Pauline. Ce qu'on voit à travers le récit, c'est que comment a été l'obéissance de Josué et du peuple face aux demandes de Dieu? Comment est-ce qu'elle était l'obéissance? Ils ont fait à la lettre ce que Dieu leur avait demandé. Exactement comme ce que Dieu leur avait demandé. Ils n'ont pas fait de zèle ou ce qu'ils se disaient, ou de paresse, où ils se disaient le quatrième jour, ben, peut-être qu'on peut rester couché matin, ou bien peut-être qu'on peut laisser l'arche là, ou peut-être qu'on peut ajuster ça comme ça à notre façon, à notre manière. Ils ont fait exactement ce que Dieu avait dit et ils l'ont fait à la lettre. Est-ce qu'ils ont manqué en quoi, en de quoi? Non, ils n'ont manqué en rien. On connaît la suite quand même de l'histoire en ce qui concerne les choses dévouées par interdit. Et il y a un homme qui a manqué à l'obéissance, qui a fait pécher tout Israël. Mais en ce qui concerne de faire tomber les murailles, elles sont tombées parce qu'ils ont obéi à ce que Dieu avait dit. Ils ont eu la foi en la parole de Dieu. Ils ont marché selon la parole de Dieu exactement comme ce que Dieu l'avait dit. Et quel a été le résultat? Les murailles sont tombées. Est-ce que c'était facile de dévouer par interdit? J'imagine que non. J'imagine que ça pouvait être difficile. Est-ce que ça était facile de tout renoncer au bien qui était là, eux qui arrivaient du désert depuis 40 ans, et de dire non, je renonce à ce que mes yeux voient, puis je le laisse là. Il y a un homme qui a péché, mais j'imagine qu'il y en a plusieurs autres qui se sont dit non, je le mets là, puis je ne touche pas. Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Ils ont voulu obéir comme ça. Ils ont obéi. Et j'imagine qu'il y avait des éléments qui étaient difficiles à ce désir de Dieu de dévouer par interdit Jéricho, mais ils l'ont fait. La foi se manifeste par l'obéissance. Ils ont obéi à la lettre à ce que Dieu demandait, car ils avaient confiance. Ils ont dû retenir l'exemple de leurs parents. Souvenez-vous, quand c'était le temps d'entrer en terre promise, ils étaient justement dans le sud, ils ont envoyé des espions, ils sont revenus, puis par désobéissance et incrédulité, ce qu'on apprend dans Hébreux, ils ont resté dans le désert pendant 40 ans. Et eux, ils ont resté dans le désert pendant un bout de temps à cause de ce péché-là. Et quand ils sont prêts à entrer en terre promise, j'imagine ils sont souvenus de l'exemple de leurs parents. Ils ont goûté aux conséquences du péché de leurs parents, dans un sens, puisqu'ils sont restés dans le désert. Puis j'imagine qu'ils se sont dit, on va obéir à Dieu. On croit en Dieu, on va obéir à Dieu. Puis du moins, c'est ce que le texte nous dit, ou ce qu'ils ont fait à la lettre, ce que Dieu leur avait demandé. Quel a été le résultat? Verset 20-21 qu'on va lire en terminant. Le peuple poussa des cris, comme ce que Dieu avait demandé, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévoirent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. La muraille s'est écroulée, comme ce que Dieu l'avait dit. Vous allez faire ça, et quand vous aurez fait ça, vous verrez le résultat. Et là, d'une façon concrète et effective, la ville était livrée entre leurs mains, c'est-à-dire que la muraille tombait devant eux, ils entraient dans la ville, et là, réellement, ils goûtaient, ils vivaient ce que c'était que d'avoir pris la ville, d'avoir la livraison de la ville, je peux dire. Mais la ville était là, elle était donnée par Dieu, et ils l'ont obtenue parce qu'ils ont cru et qu'ils ont obéi, et le résultat était ça. La foi nous mène à de grandes victoires. Si on fait confiance à Dieu et qu'on obéit, la victoire nous est assurée. Dieu, c'est son désir dans nos vies, où est-ce qu'il veut qu'on vive la victoire. Dieu ne veut pas qu'on vive dans la défaite. Dieu ne veut pas qu'on vive terrassé, qu'on reste écrasé. Il veut qu'on vive en victorieux, en homme de Dieu, en femme de Dieu, qui vive avec des pas qui sont fermes pour lui. Et son désir, évidemment, quand il nous parle de sa parole, c'est pour qu'on s'approprie sa parole, qu'on lui obéisse, puis qu'en bout de ligne, qu'on en ait le résultat pour notre victoire aussi avec lui, parce que c'est lui qui nous la livre. C'est quoi le mur dans notre vie? Est-ce qu'il y a des murs dans nos vies où est-ce qu'on est arrivé devant et qu'on a à écouter, à être sensible à ce que Dieu me dit, à qu'est-ce que la parole de Dieu me dit, et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ça tombe? Qu'est-ce que je considère comme impossible dans ma vie où est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant, peut-être de prendre un temps avec Dieu, où est-ce que Dieu me rencontre puis il dit, viens, on va passer du temps ensemble, premièrement. C'est ça la première chose que Josué a faite. Dieu est venu le rencontrer, puis il l'a adoré. Puis Josué lui a montré l'attitude, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça commence là. Et quand on a cette ouverture-là de cœur, Dieu nous présente sa parole, et rapidement on l'accueille parce qu'on a l'attitude de, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je vais le faire. Et c'est là que les murs dans nos vies commencent à tomber. Quand on a cette confiance-là. Et des fois, les murs sont épais, des fois, les murs sont grands, et humainement, on n'est pas capable. Est-ce que Dieu est capable? Oui, Dieu est capable. On l'a lu dans 2 Corinthiens, où est-ce que les forteresses tombent à cause de la confiance que l'on place en lui. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans l'exemple de Josué? Dieu a de grandes capacités, Dieu veut nous utiliser, Dieu sollicite notre foi. Il veut qu'on tourne des fois autour de la ville, parce qu'il veut solliciter notre foi pour ce que on va pas se décourager au 12e tour ou au 9e tour, mais qu'on va aller jusqu'à la fin de ce que Dieu nous a demandé pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu justement s'accomplir dans notre vie quand on va dans l'obéissance jusqu'au bout. Il y a d'autres textes qu'on aurait pu citer, mais Dieu nous encourage à la persévérance, et beaucoup dans Hébreu, à persévérer dans la foi, à continuer d'avancer et de ne pas se décourager. Et Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Dernière question ou commentaire avant qu'on termine? Oui, Richard. Oui. 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 Oui, certainement, certainement. On a ce même privilège-là que Josué a eu de rencontrer Dieu. On a cette rencontre-là où ce que Dieu s'avance vers nous, puis il veut nous rencontrer. Merci Richard. Oui, Serge. Il nous a donné la victoire. Je livre la ville entre tes mains. À nous de la vivre, la victoire aussi, mais il nous la donne. Oui, merci Serge. Danny. Ouais. Ouais. Ils ont honoré leurs paroles. Et Rahab a été épargné aussi. Comme on disait l'autre fois, on imagine que la section de muraille où ce que la maison de Rahab était n'est pas tombée. Ou est tombée sur du mou, là, je ne sais pas. Ouh! <Bon. rire> Bien lentement. Mais c'est ça. Dieu l'a préservé. Puis le peuple aussi, parce qu'ils ont honoré la parole. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors, quand Dieu nous fortifie, on peut tout à cause qu'il nous donne sa force, justement. Oui, Normande. Ouais. Un témoignage fidèle de l'obéissance fidèle, ça parle beaucoup aux gens. Effectivement, c'est vrai. Merci, Normand. On termine par un mot de prière et pour que Dieu, justement, place cette parole-là dans nos cœurs pour longtemps. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci pour ces héros de la foi, de voir comment ces hommes, ces femmes ont cherché à t'obéir. Ils ont cru à ta parole, ils ont cru en toi, ils t'ont obéi aussi et t'as fait de grandes choses à travers eux. T'as permis, Seigneur, qu'il se fasse des prodiges à travers la foi. T'as permis aussi que d'autres meurent à travers la foi. Et on veut être de ces héros-là, Seigneur. On veut être de cette même trempe-là où ce que on croit à ta parole, on obéit à ta parole, parce qu'on veut voir l'œuvre, ton œuvre, dans nos vies aussi. On veut voir comment est-ce que tu veux nous utiliser. Et à travers ça, on veut te glorifier en même temps par nos vies. Dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.